enregistrement. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est transmission orale de musique? Eh bien, ça veut dire transmettre la musique uniquement par le son, ouais, tout simplement. Donc, en gros, transmettre la musique par la musique. Ça veut dire ne pas utiliser de support autre que le son, on va dire, donc pas de support papier et pas d'écrit. Voilà. Alors en fait, bien sûr, la musique, elle s'est toujours transmise de cette façon-là, puisque l'écriture, c'est assez récent, hein, le fait d'écrire la musique. Donc de toute façon, avant, il n'y avait pas le choix. Et donc, du moment qu'on a en fait mis en place un système d'écriture, donc en Occident, on a au départ mis en place ce système d'écriture a priori pour garder une trace en fait hein, des compositions. Et ensuite, aujourd'hui, on utilise l'écriture pour en fait enseigner, voilà, pour transmettre la musique. Mais c'était pas le but au départ, a priori. Hein. Il n'y avait pas d'enregistreur, donc il fallait, si on voulait garder une trace en fait d'une composition, on a trouvé ce moyen de l'écrire. Donc voilà l'objectif au départ. Aujourd'hui, donc on s'en sert pour transmettre la musique. Et en fait, donc moi j'enseigne depuis maintenant plus de 10 ans la musique et j'ai commencé en faisant comme je pense la plupart des professeurs de guitare, en tout cas en musique actuelle. C'est-à-dire que j'ai utilisé des partitions, des tablatures et j'écrivais le rythme, etc. Et en fait, donc j'ai réfléchi à tout ça. Je me suis questionné à chaque fois sur la pertinence de tout ça. Quand je voyais que des personnes avaient des difficultés, par exemple avec le rythme, à chaque fois j'ai dû me poser la question pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ma façon de faire est pertinente et est-ce qu'elle fonctionne. Donc ça m'a obligé à vraiment beaucoup chercher. Donc je ne veux pas reparler de l'historique, on va dire, puisque il y a le précédent webinaire en fait qui est en ligne que vous pouvez regarder sur YouTube. Vous pourrez regarder ça si ça vous intéresse, où j'explique pourquoi j'en suis venu là. Mais en gros, j'ai commencé la pratique du chant indien, le chant Drupad, qui est un chant de l'Inde du Nord. Ce chant se transmet aujourd'hui toujours de la même façon, c'est-à-dire par le chant. Bon, alors c'est du chant, donc ça paraît évident, mais en fait, même un instrumentiste en Inde va apprendre au départ à chanter ce qu'il va jouer ensuite, et également les percussionnistes. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'allais vers ça dans ma façon d'enseigner la guitare, c'est-à-dire que j'essayais petit à petit d'enlever de plus en plus de papier. Je me rendais bien compte que ça mettait la plupart des élèves dans un état qui n'était pas pertinent pour apprendre, donc je développerai ça après. Donc quand j'ai commencé moi à prendre des cours, j'ai vraiment vécu le système, c'est-à-dire que j'étais à la place de l'élève et j'ai vécu l'expérience d'un élève qui apprend à la musique sans aucun support papier, que par le son uniquement. Et c'est cette expérience qui m'a complètement convaincu et qui m'a fait devenir, entre guillemets, je rigole, parce qu'on m'a dit ça il n'y a pas longtemps, enfin c'est moi qui dis ça, que je suis un extrémiste à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'utilise vraiment zéro papier, et quand on me demande, enfin on me demande même pas en fait, parce que je crois que tout le monde comprend assez vite, mes élèves comprennent assez vite que j'en donnerai pas, mais voilà, c'est pourquoi j'en suis venu là, c'est pas... uniquement de la réflexion, c'est pas uniquement de l'observation chez mes élèves, c'est surtout de la pratique moi. C'est-à-dire que j'ai été moi, et je le suis toujours parce que je continue d'apprendre ce chant, je suis à la place de l'élève qui apprend comme ça. Et donc j'ai bien vu ce qui se passait dans mon esprit, dans quel état ça me mettait, à la différence de quand je passais par un support papier, et surtout comment ça m'obligeait à fonctionner et tout ce que ça pouvait m'apporter. Et en fait, je crois vraiment que pour comprendre ça, il faut le vivre, il faut l'avoir vécu. On peut comprendre intellectuellement, hein, mais comme toute chose, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on croit qu'on comprend, mais on ne comprend pas tant que ça, en fait. Il faut vraiment avoir expérimenté ça. Donc, pourquoi, ben, je vous détaille un petit peu maintenant, pourquoi... Ça m'a complètement convaincu pourquoi maintenant j'enseigne exclusivement comme ça et que je ne retournerai pas en arrière. Bon, on dit qu'il faut jamais dire jamais, mais là je crois qu'il y a vraiment peu de chance. Bah, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça génère en fait? Qu'est-ce que nous fait expérimenter le fait d'être élève et d'apprendre uniquement avec du son? Et que nous fait expérimenter le fait d'être élève et d'apprendre à travers une partition. Quelque chose qui est quand même assez évident à mon avis, c'est que si j'apprends uniquement avec le son, je suis obligé d'écouter en fait. Je suis obligé d'être à l'écoute. J'ai pas d'autre choix puisque ma seule source d'information, c'est l'écoute. En fait, je me suis rendu compte que quand on donne le choix, notre système, il va choisir le choix, on va dire, intellectuel. Ça veut dire que si je vous joue un son et qu'en même temps je vous dis c'est la, je sais pas, troisième case de la deuxième corde ou de la corde de la, votre mental, il écoute le son, il va le mettre au second plan, voire troisième, quatrième, cinquième, voire inexistant. Et il va prendre l'information intellectuelle en premier. Pourquoi? Bon, à la limite, on s'en fout de pourquoi, c'est ce qui se passe en tout cas. Moi, je dirais que c'est parce qu'en fait, on a peur et que le mental, il est rassuré quand il a une information claire qui, pour lui, on dit c'est ici. Ah, d'accord, c'est là, ok, c'est bon. Il a peur de faire confiance à son ressenti. Enfin, on a peur de faire confiance à notre ressenti, je sais pas, on a peur de se tromper. Donc, si on nous dit la case, et ben, en fait, on va tout de suite aller à la case. Point. Un exemple tout bête, hein, c'est que si on s'accorde avec un accordeur tout le temps, en fait, on n'écoute pas le son. En fait, on s'accorde et on regarde le petit accordeur avec la petite flèche, s'il y en a une, enfin, selon comment fonctionne l'accordeur. Et en fait, c'est comme un petit jeu électronique, on tourne la clé, puis voilà. Mais en fait, on n'écoute pas le son. Donc, c'est déjà la première chose. C'est-à-dire que si j'apprends avec une transmission orale, je n'ai que le son, hein, à me référer. Donc, je suis obligé d'écouter puisque j'ai pas le choix, j'ai pas d'autres informations. Donc si j'ai envie de jouer le truc, ben voilà, je suis obligé d'écouter. Être à l'écoute, c'est être présent. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà la différence aussi. Si j'ai une partition, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ce que je viens d'expliquer par rapport à l'accordeur. Donc si j'ai une partition, je vais regarder mon écrit et je vais pas écouter en fait. Combien de fois j'ai pu mettre avant, quand j'utilisais donc des partitions, une partition devant les yeux d'un élève et il se mettait à essayer de jouer avant même que je lui joue en fait, et parce que voilà, il y a quelque chose qui attire le regard. Justement, alors a priori, ça c'est scientifique, j'aime pas trop me reposer sur la science, plutôt sur l'expérience, mais bon, a priori, le sens de la vue prendrait le pas sur les autres sens. Donc ça veut dire que si je regarde quelque chose, si je regarde la partition, ça va prendre le pas en fait et je vais être moins à l'écoute. Voilà, donc le regard n'est pas inutile, il sert aussi à s'inspirer, mais une partition, je ne sais pas trop si c'est vraiment très inspirant pour le coup. La partition, elle va me faire réfléchir. Alors voilà, alors là c'est un autre grand sujet. La musique, pour moi, c'est de l'émotionnel, c'est du ressenti, c'est des sensations, c'est de l'expression, c'est tout ça. On est dans le monde sensoriel, quoi. De la sensibilité, etc. Le truc, c'est que déjà, quand on prend un cours, on va, la plus grande partie du temps, hein, je sais pas, je vais dire, allez, pour dire un pourcentage, 99% des élèves, ont tendance à retrouver des schémas et des fonctionnements scolaires. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver un petit peu comme si c'était des élèves à l'école. Donc on va retrouver un fonctionnement qu'on a eu quand on était à l'école. Okay. Sauf que quand on était à l'école, comment on fonctionnait? Est-ce qu'on fonctionnait avec nos ressentis? Voilà, c'est une bonne question. Alors non, je crois. Hein. Enfin, je sais pas, posez-vous la question pour vous, mais moi personnellement, non. Donc mon objectif, c'était quand j'ai un contrôle d'avoir des bonnes notes. Pour résoudre un problème, il fallait réfléchir. Et voilà. Donc ça sollicite l'intellectuel et il faut avoir une bonne note. Et en plus, j'ai un temps bien particulier pour finir. C'est-à-dire qu'il faut que je me dépêche. Enfin, ça génère plutôt ce genre de... d'émotionnel et de fonctionnement. Or, quand on fait de la musique, le rythme, il faut prendre son temps parce que on peut pas, ça sert à rien d'aller plus vite que le rythme, ça n'a aucun sens. Donc, faut se laisser aller, être tranquille, donc pas se sentir pressé, être à l'écoute de ses sensations puisque la musique, on est dans le monde sensoriel comme je le disais. Et le but, bah, c'est de s'exprimer, c'est pas d'avoir une bonne note. Donc en fait, on est vraiment dans un fonctionnement qui est inverse de celui que l'école a tendance en fait à générer. Donc si je mets une partition, ça accentue le phénomène puisque je vais encore plus me sentir comme à l'école déjà. Et la deuxième chose, c'est que on sait pas lire à la base la musique, on sait pas lire. Moi, je savais pas lire la musique, donc il a fallu que j'apprenne quand même. Donc ça veut dire que déjà, faut que j'y passe du temps. Et en plus, à chaque fois que je vais lire, je vais devoir réfléchir. Donc ça sollicite mon intellect, quoi. Je vais devoir réfléchir pour décortiquer le truc. Voilà. Donc ça fait fonctionner pour moi pas de la façon la plus pertinente pour faire de la musique. Et comme je le disais, étant donné qu'il faut apprendre à lire pour lire la musique. Déjà, pour apprendre à lire quelque chose, il faut que ça ait du sens. Ça veut dire que pour lire du rythme, il faut déjà que je ressente le rythme, sinon ça n'a aucun sens que je lis, déjà, premièrement. Et si je dois apprendre à lire, je vais y passer du temps. Et en fait, tout le temps que je vais passer à apprendre à lire, si je le passe plutôt à apprendre à écouter, à développer mon oreille, à développer, pardon, mon sens du rythme, pour moi, ce temps, il est mieux utilisé. Alors encore une fois, si jamais vous avez que ça à faire de vos journées, hein, je sais pas, vous passez 8, 9, 10 heures par jour à jouer de la guitare, c'est sûr que passer 10, 15, 20 minutes à apprendre à lire, c'est ok, quoi. Il n'y a pas de souci, mais la plupart des gens n'ont pas tout ce temps-là à consacrer à la musique, donc autant l'utiliser pour moi de la façon la plus intéressante, la plus pertinente et qui nous servira le plus. Le but, en fait, c'est de devenir un musicien. Pour devenir un musicien, la matière première du musicien, c'est le rythme et le son. C'est ces deux choses-là. Donc, en fait, je vais m'intéresser à ces deux choses-là. Plutôt que m'intéresser à apprendre à lire en premier, hein, je vais m'intéresser à ça. Quand donc j'ai mon petit papier, je ne suis pas intéressé tant par le son, le rythme, mes sensations, ce que je vis, ce que la musique me fait, etc. Mon attention, elle est focalisée en fait sur le papier. Bon. Donc, mon esprit est moins disponible. C'est comme si on avait une jauge de disponibilité d'esprit et qu'en fait, du coup, là, elle est pas mal occupée donc à déchiffrer. Donc toute cette réserve n'est pas disponible pour écouter mes sensations. Ensuite, alors là, je regarde mes notes. Il y a autre chose aussi, oui, il y a un paramètre qui est aussi très important, on me dit souvent ça d'ailleurs, que la musique c'est aussi du partage, c'est de l'échange, etc. Oui. Alors dans quelle situation on échange le plus? Est-ce que c'est quand mon professeur, mon enseignant me joue des choses, me chante des choses, et que moi je l'écoute, et que je cherche à reproduire ce qu'il me joue, ce qu'il me chante, ou est-ce que j'ai une partition qui est là entre moi et lui, et que j'essaie de jouer ce qui est écrit? Dans quelle situation il y a le plus d'interaction et le plus d'échange? Voilà, bah, je ne vais même pas répondre parce que je crois que c'est assez évident comme réponse. Mais ça implique que du coup le professeur il est censé pouvoir tout illustrer, tout montrer. Et en fait ça va se jouer vraiment à plein de niveaux parce qu'en fait dans cette transmission orale, l'enseignant va pouvoir faire des choses très fines, très subtiles, au niveau de l'expressivité, au niveau de la résonance du son, au niveau de plein de choses, des choses qui sont impossibles à écrire en fait sur une partition, parce que c'est trop subtil. Même si on développe des façons d'écrire qui peuvent être complexes, il y a des nuances, c'est pas possible, quoi. On est obligé d'être dans de l'intention, une forme d'intention, et cette intention, on peut la capter qu'en écoutant, on ne peut pas la lire sur un papier. Donc c'est quelque chose, c'est tout simplement, c'est pas possible avec un papier. Donc après, c'est sûr, vous pourrez me dire, oui, quand j'écoute un morceau, je ressens l'intention, puis après je prends la partition. Mais sauf que si je ne peux pas reprendre à l'oreille, ça veut dire que ce que j'entends, je l'entends pas vraiment, je l'entends pas assez bien pour pouvoir le jouer. Donc l'idée, c'est que l'enseignant, lui, va pouvoir le rejouer plus doucement. Il va pouvoir, à la limite, montrer qu'un petit bout, faire entendre qu'un petit bout, et guider pour que ce soit faisable en fait, selon le niveau où vous êtes. Parce que du coup aussi, ça va permettre à l'enseignant de s'adapter immédiatement à là où vous en êtes. Une partition, elle est comme ça, elle est comme ça. On joue ça, quoi. Même si on peut rejouer qu'un petit bout, un plus grand bout, selon où vous en êtes, bon, ça reste la partition telle qu'elle est. Quand on transmet de façon orale, on peut vraiment s'adapter à l'instant T, à là où en est l'élève, à son état émotionnel du moment, etc., etc. Après, ça demande vraiment un savoir-faire très spécifique. Ce savoir-faire, c'est vraiment tous les systèmes de transmission anciennes ont ce savoir-faire. Donc moi, je pratique le tai chi, par exemple. Alors c'est évident qu'on lit pas un papier pour faire des mouvements, quoi. Il n'y a pas eu une codification de papier qui te décrit tous les mouvements. Enfin, en tout cas, ce sera impossible à faire si tu n'as jamais vu le mouvement avant, quoi. Donc, c'est de la transmission, on va dire mimétisme, hein, donc on reproduit. Voilà. C'est un peu l'extrême en Asie, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça en Occident. Donc, moi en tout cas, je ne suis pas aussi extrême. C'est-à-dire que je donne des explications, je guide un peu, voilà, y a des choses en plus, mais la majorité de la transmission, elle se fait comme ça, en fait, en direct, par le mimétisme, on va dire. Dans tous les arts, c'est comme ça, en fait, hein. Il n'y a pas forcément une forme d'écriture. C'est du direct pour le dessin, pour la danse, etc. Quand on regarde, on capte des choses plus ou moins fines selon là où on en est, en fait. Et on va développer comme ça quelque chose de plus en plus subtil. Une partition n'amènera pas à la subtilité. Enfin, je vois pas comment. Qu'est-ce qui amène à la subtilité? Développer son écoute, affiner son écoute, l'enseignant qui va dire écoute peut-être un peu plus, essaie d'écouter un peu ça pour voir. Enfin, c'est comme si en fait c'était un petit peu un guide en forêt, quoi, qui va dire va voir par là-bas, derrière cet arbre, il y a quelque chose à voir, mais va voir toi. Et là, on touche vraiment pour moi le point quasiment le plus important de l'intérêt de la transmission orale, c'est en fait que qu'est-ce qu'on valide dans cette façon de faire? Notre ressenti. Parce que c'est notre sens, ça passe par l'écoute, ce que je ressens, j'écoute mes sens et je valide mes sens. C'est-à-dire que je m'auto-valide dans mon ressenti. Que ce soit le truc que j'ai entendu ou que ce soit différent, mais j'apprends à écouter mes sensations et à les valider plutôt que valider un papier. En fait, qui est lui l'autorité, c'est lui qui me dit ce que je dois faire. C'est très différent. Des fois, c'est très, très récurrent, surtout dans la relation professeur-élève, qu'il y ait un type de relation où l'élève cherche tout le temps la validité, pardon, du professeur. C'est normal dans un sens que le professeur il est là pour ça, pour guider, etc. Mais en fait, à chaque fois par exemple, je vais vous prendre un exemple. Quand je joue un accord. Voilà, je vais prendre ma guitare. Hop. Quand je joue un accord, imaginons, voilà, on est débutant et puis je montre un la mineur. Bon, voilà, on va faire ça. L'élève va poser ses doigts comme ça, puis il va me dire, c'est ça? Sans même jouer l'accord. Si moi je lui dis, ouais, c'est ça, je suis en train de valider, c'est moi qui te dis ce qui est bien, ce qui est pas bien. Si maintenant je lui dis, bah, regarde, je te joue, écoute, toi, écoute si ça fait le même son. Voilà. Et s'il me dit j'entends pas, je lui dis ben écoute encore plus. Voilà. Et après, je peux, bien sûr, si vraiment il n'entend pas, voilà, mais ça se travaille à l'oreille, il n'y a pas de problème. Mais ça se développe. Mais en fait, si moi je lui dis oui ou non, je suis en train de valider le fait que lui ne sait pas et qu'il ne pourra pas savoir. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est primordial pour moi de ne pas rentrer là-dedans et de ne pas valider ce fonctionnement et de dire non, non, tu peux savoir, écoute tes sensations, écoute le son. Tu as la capacité de mieux savoir plus que ce que tu crois. Voilà, en gros, moi, s'il y avait un seul truc à retenir, en fait, ce serait ça. Ce serait ça. Le fait de s'auto-valider avec nos sensations. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai pas mal décrit la chose, comment se transmet la musique par le son, comment je le vois en tout cas. Donc je vais faire le lien maintenant avec les qualités du musicien. Donc la plupart du temps, en fait, on va parler de technicité, on va parler de technicité, puis on va parler de technicité, et puis un petit peu de théorie, d'avoir la connaissance théorique. Et donc, bon, je ne vais pas réaborder le truc, mais enfin, vaguement, je vais en parler vite fait. C'est pas la théorie hein, qui fait la musique. Donc ça veut dire que je peux être un super musicien et avoir aucune connaissance théorique. Je peux même inventer ma propre théorie parce que c'est que des concepts, hein. C'est des concepts mentaux, la théorie qu'on a mis sur la musique. C'est-à-dire comment mon mental, il explique les phénomènes musicaux. Donc on a mis un concept occidental là-dessus, on a mis des mots, on a voilà, des mots qui sont plus ou moins froids, plus ou moins poétiques, hein, mais voilà, il y a d'autres cultures où c'est peut-être un peu plus poétique. Mais en tout cas, c'est que des concepts. C'est pas parce que j'ai le concept que j'ai compris la musique. Hein. Comme je disais, c'est pas parce que je sais que ce fruit est une fraise que je sais ce que c'est. Hein. Pour moi, c'est quand je l'ai mangé, quand je l'ai expérimenté, j'ai senti son odeur, j'ai touché sa texture. C'est quand j'en fais l'expérience hein, que je pourrais vraiment savoir ce que c'est une fraise. Et encore, savoir, c'est un bien grand mot. Mais c'est comme ça que je vais vraiment expérimenter la fraise, en la mangeant. En faisant passer par mes sens et pas juste en la nommant la fraise. Donc la théorie musicale c'est pareil, hein, c'est que des mots, c'est des concepts. Donc, bon. Après, ça sert ou ça sert pas, hein, mais c'est pas indispensable. Donc les qualités d'un musicien, souvent, donc, et c'est pour ça, pourquoi je pose cette question? Parce qu'elle est importante, parce que ça veut dire comment je vais construire mon cours, comment je vais enseigner. Parce que moi, je veux enseigner pour développer ces qualités-là. Donc, selon les qualités que moi j'ai dans mon esprit, selon ce que je vois comme étant important, je vais axer mes cours là-dessus. Je vais axer mon enseignement là-dessus et je vais axer mon travail personnel, ma pratique personnelle là-dessus. Donc, si j'estime que la technique c'est le plus important, je vais passer beaucoup de temps à travailler la technique. Si j'estime que la théorie c'est très important, je vais passer beaucoup de temps à développer la technique. La théorie, pardon, parce que j'ai déjà dit technique. Et moi, je vais aborder d'autres qualités. Je vais vous parler d'autres qualités. Pour moi, un musicien, il doit avoir une certaine qualité d'écoute. Il doit être capable d'écouter. Ça veut dire d'avoir cette finesse d'écoute. Comment développer l'écoute? En écoutant. Ça me fait rire, mais ouais, c'est bête, mais en écoutant. Et c'est pas si simple de vraiment être à l'écoute. C'est-à-dire de ne pas penser à autre chose, d'être vraiment à l'écoute. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, quand on est à l'écoute, on est présent en fait. Parce qu'on ne fait rien d'autre, on est juste là et c'est une forme d'ouverture aussi hein, d'être à l'écoute. On s'ouvre à ce qui vient. Et l'écoute, ce n'est pas que l'écoute du son, c'est aussi l'écoute de nos sensations, l'écoute de mes ressentis, de qu'est-ce que me fait cette musique, qu'est-ce que me fait ce son, que me fait cet intervalle, que me fait cet accord, qu'est-ce que je ressens là, qu'est-ce que je ressens là. Voilà, parce que c'est ça que la musique, c'est la forme extérieure, même la technique, c'est ce qui va me permettre d'exprimer tout ça. Donc voilà, deuxième qualité, l'expressivité. Ça veut dire que je peux être à l'écoute de mes sensations, mais être incapable de les exprimer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bloque et j'arrive pas à les exprimer. J'ai besoin d'être capable d'exprimer mes sensations, puisque faire acte de la musique, c'est exprimer, c'est un mouvement vers l'extérieur. Hein. Voilà, sinon, je fais pas de musique. Alors après, bon, il y a le sens du rythme. Donc, le sens du rythme, c'est la perception du mouvement, percevoir le mouvement, percevoir la vie en mouvement. Pour moi, le rythme, c'est ça en fait, percevoir la vie en mouvement et particulièrement percevoir des mouvements cycliques. Voilà, il va falloir développer aussi cette sensibilité-là au mouvement. et au mouvement qui est en moi, au mouvement que crée le rythme quand je l'entends, au mouvement que je génère quand je crée du rythme, etc., etc. Mais ça demande aussi d'un certain laisser-aller. Ça demande d'être présent dans notre musique, hein, d'être dans ce qu'on fait. Bon, ça, voilà, c'est. Alors, il y a des choses qui sont valables en fait pour n'importe quel art. Notre qualité, c'est une qualité d'ouverture, donc globale, ça veut dire de m'ouvrir en fait à l'extérieur, puisqu'un musicien pour moi, c'est ce que je vis à l'intérieur qui s'exprime à l'extérieur. Donc ça demande de pouvoir s'ouvrir à ce qui se passe autour. Donc au lieu de chanter par exemple, non, non, je vais faire. Ah, je vais ouvrir mon regard, je vais m'ouvrir. Et même dans le son de la guitare, ça se sent, ça s'entend. Ça demande d'être capable de maintenir son intention sur quelque chose pendant un certain temps. Puisque l'idée, c'est d'être dans la musique que je joue tout le long. Quand on dit ça, ça peut être un peu abstrait, donc ça dépend du fonctionnement de chacun. Certains sont très dans l'imaginaire, donc ils vont imaginer des choses. C'est pas vraiment ça. C'est être dans la musique, pour moi, c'est être en lien avec ce que je ressens quand je joue. Voilà, c'est vraiment être ça. Donc c'est bien là, incarné dans le corps, quoi. C'est être capable aussi d'être créatif dans le sens de faire des choses nouvelles, même dans l'interprétation, même quand je joue un morceau qui existe déjà. Il y a une part de créativité dans l'interprétation, dans la façon dont je vais le jouer, dans les nuances que je vais y mettre, etc. Mais ça vient tout seul. Donc en fait, pour moi, la créativité, c'est une forme de spontanéité. C'est un peu comme là, je suis en train de parler, j'ai des thèmes de base, mais je parle un peu, j'improvise, quoi. Donc je dois être capable d'avoir des thèmes de base, mais d'être libre dans la manière dont je vais l'exprimer, hein, de façon immédiate et instantanée. Donc ça, c'est l'improvisation, en fait, c'est la créativité à l'instant T, quoi. Passer par des partitions, je reviens au thème de tout à l'heure, passer par des partitions par exemple, tue la créativité directe, mémoriser des schémas de gamme et passer par là pour apprendre des gammes, tue la créativité directe. Ça a expérimenté, hein. Vraiment, encore une fois, je parle de plein de choses, mais tant qu'on n'a pas vraiment expérimenté cette façon d'enseigner, cette façon de recevoir l'enseignement, on ne comprend pas forcément tout ce dont il s'agit. Ça demande d'être calme, détendu et tranquille. Donc d'être tranquille. Si je suis agité, je vais me fatiguer. C'est fatigant de faire de la musique si je suis agité. Mais mon corps se crispe et voilà. Alors j'exagère en montrant comme ça, mais il y a quelque chose de très fatigant. Et en plus. C'est pas comme ça que je vais m'exprimer parce qu'en fait, quand je fais comme ça, mon expressivité, elle est retenue, elle est contenue en moi. Donc c'est comme, j'ai envie d'exprimer le truc, mais il est contenu. Ah, comme quand on s'énerve et qu'on fait comme ça, mais voilà, on n'exprime pas vraiment. Donc en me détendant, en relâchant, j'apprends à me détendre et à l'émotion qu'elle puisse s'exprimer vraiment, en fait, sortir et pas rester bloqué et être contenu. Je fais un peu vite, hein. On pourrait dire plein de choses là-dessus, mais ouais, c'est pour pas que ça dure. Le webinaire, sinon, il va durer 3 heures. Mais c'est donc un paramètre essentiel, en fait, le calme. Le calme, être tranquille. Et pour être calme, il faut être stable. Donc là, après, il y a une histoire de posture, il y a plein de choses aussi qui viennent là-dedans. Bon, je vais passer. Et donc, tout ça aussi va amener à un esprit clair. J'ai besoin d'avoir un esprit clair, puisque ce que je joue, ça doit être ultra clair. Plus c'est clair dans mon esprit, plus ça veut dire que la forme, en fait, le son, c'est déjà une forme de mon émotion, si je suis vraiment dans l'expressivité, hein. Donc, plus mon esprit va être clair, plus je vais pouvoir donner une forme précise à mon émotion, et plus cette forme va être pertinente pour cette émotion-là. Il y a des gammes, des morceaux, des mélodies qui sont pertinents pour exprimer certaines émotions et d'autres pour d'autres, etc. Plus je suis dans l'expressivité d'une émotion, plus j'aligne avec une forme extérieure, une structure qui est adaptée et pertinente pour ça, plus je vais vraiment m'exprimer, en fait, plus ce sera valable. Bon. Donc j'ai besoin d'avoir un esprit clair. En fait, le calme va amener ça aussi. Donc tout ce que je viens de dire, alors un esprit clair, être calme et détendu, la créativité, mais tonique hein, quand même, hein, calme, détendu, mais pas mollasson, tonique. Tout ça, c'est des paramètres que je retrouve dans le tai chi, en fait, et vraiment, ça, le lien il est assez évident, et dans la méditation, forcément. Donc voilà pourquoi j'associe les deux. Maintenant, j'utilise ce terme-là. En fait, c'est parce que la méditation, c'est maintenir son attention dans quelque chose pendant un certain temps. Être dans une méditation. Alors moi, c'est plutôt de l'interne, hein, c'est observer comment je me sens, comment je suis à l'intérieur. Donc tout ça, c'est vraiment des paramètres qui sont très communs. Si je vis la musique de cette manière-là et que je m'intéresse à ces qualités-là, parce que pour moi, c'est des qualités essentielles du musicien, en fait, hein, c'est pas juste un en plus, c'est essentiel, forcément, en fait, je vais avoir une pratique qui va s'apparenter à une pratique méditative. Voilà, c'est assez évident. Ok, alors je vais juste regarder rapidement s'il y a par hasard une personne qui aurait posé une question. Et là, vous pouvez poser des questions si vous voulez. Vous pouvez commencer à poser des questions. Je vais répondre à la question que j'ai mis de côté. Et ensuite, voilà, s'il y en a d'autres, j'y répondrai. Sinon, bah, ce sera la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oula, il y a 100 000 spectateurs, c'est incroyable. Alors, donc j'ai une question qui est, mais comment rejouer un morceau? Donc c'était une question qui a été posée suite à la vidéo théorie musicale. Est-ce que c'est obligé pour apprendre la musique? Je ne sais plus exactement le titre de la vidéo. Alors, mais comment rejouer un morceau pour un débutant si tu n'as pas d'écrit? Et ben donc tu as besoin de quelqu'un qui va te montrer parce que quand tu es débutant, effectivement, ton oreille n'est pas forcément assez fine pour repiquer à l'oreille des morceaux. Elle va être même pas peut-être assez fine pour savoir ce qui va être possible pour toi de reproduire. Donc là, c'est forcément un enseignant en fait qui va jouer plus doucement, qui va te montrer des bouts, etc., te faire entendre les choses pour s'adapter à toi. Surtout si, comme moi, l'oreille musicale est proche de zéro. Voilà. Oui, bah oui, je comprends. En même temps, alors c'est pas ce que tu dis là, hein. Je sais pas comment tu l'entendais cette phrase, mais j'ai déjà entendu ça plusieurs fois des personnes qui disent oui, mais moi j'ai pas d'oreille. Sous-entendu, comme j'ai pas d'oreille, on va faire autrement. Bah en fait, comment faire de la musique si on n'a pas d'oreille? C'est comme si je disais. Je veux faire de la poterie, mais j'ai pas d'argile. Comment tu vas faire ta poterie avec quoi? Je veux faire de la peinture, mais j'ai pas de pinceau et j'ai pas de peinture. Ben, ça va être compliqué, hein. La musique, c'est du son. Sinon, ça revient juste à bouger des doigts sur un instrument. C'est comme si je tapais sur mon clavier et que je savais pas du tout ce que j'écris. Ça a aucun sens, en fait. L'émotionnel va passer par le son et ensuite par la technique qui va manifester le son, mais ça passe par le son en premier. Donc l'oreille, c'est comme tout sens, ça se développe. Et j'ai pour l'instant encore jamais vu personne qui n'avait tellement pas d'oreille que je lui ai dit, oulala, arrête tout de suite. Non, non, c'est jamais arrivé, ça se développe. C'est juste que au lieu de passer du temps à déchiffrer des trucs, eh ben, passe du temps à écouter. Passe du temps à écouter. Passe du temps à écouter et à chanter, évidemment, à essayer de rechanter ce que tu entends. Voilà, c'est un conseil ultra simple, mais ultra important et efficace en fait. Voilà, si avec une chose, passe ton temps à écouter des choses, à les rechanter, quoi. Et si tu te dis, ah, maintenant c'est moche ou je chante mal et tout ça, ouais, c'est sûr, ben, du coup, ça va bloquer. Mais en fait, si tu t'en fous de chanter moche, mal ou quoi, juste tu chantes régulièrement et t'écoutes et tu chantes et t'écoutes finement comment ça fait quand tu chantes, la sensation, comment ça résonne, ça va se développer cette oreille. Il n'y a pas de souci, quoi. Un ébéniste, il va développer son toucher du bois, il va toucher le bois pour sentir le degré de ponçage, comment. À quel moment il s'arrête de poncer, etc. Un peintre, il va observer les couleurs, les mélanges, comment ça rend, qu'est-ce que ça fait comme impression quand il mélange ça, quand il mélange ces différentes couleurs. Voilà, c'est la matière première, en fait, le son du musicien, c'est la matière première. Donc, il faut s'y intéresser vraiment autant, voire plus que l'écriture, en fait. L'écriture, elle fait, en fait, elle te dit. Qu'est-ce que c'est le son, si tu veux? Mais si tu n'entends pas le son, alors ça fait quoi? Ça fait juste ou ça te dit juste où mettre ton doigt sur la guitare? Mais c'est pas faire de la musique, ça c'est mettre des doigts sur une guitare. Ce n'est absolument pas faire de la musique. Donc à un moment donné, juste se dire, ok, je veux être musicien. Donc si je veux être musicien, maintenant je vais m'intéresser au son. C'est ma matière première. Voilà. On n'a pas tous la mémoire auditive. Ah oui, il y avait ce petit truc-là aussi. On n'a pas tous la mémoire auditive. Alors comment fais-tu pour parler? Parce que parler, c'est du son. Alors comment fais-tu pour parler? Tu as une mémoire auditive puisque tu parles. On a tous une mémoire auditive en fait. C'est juste encore une fois une histoire de se détendre avec l'histoire de mémoire et pratiquer. Écouter, chanter, écouter, chanter. Combien de fois on a des morceaux dans notre tête qu'on n'a jamais cherché à mémoriser et qu'on a dans notre tête qui tournent en boucle. Parce que plus on est détendu et plus ça rentre tout seul. Voilà, le problème c'est quand on cherche à mémoriser, on met une pression avec l'esprit. Voilà. Donc en fait, tout ce que je viens de dire là, aujourd'hui, c'est s'intéresser à comment on fonctionne, aussi bien dans notre corps, dans les tensions qu'on peut avoir, que dans l'esprit. Comment fonctionne mon esprit? Et moi, je peux voir ce que j'ai vu chez moi, ce que j'ai détecté chez moi, ce que j'ai, comment dire, pas résolu parce que je sais jamais ce qui est résolu, mais ce que j'ai déjà exploré chez moi, je peux le voir en fait chez quelqu'un d'autre. Donc je vais pouvoir voir un petit peu comment il fonctionne, son état d'esprit à un certain moment. Et en fait, c'est ça qui est vraiment important. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire jusqu'à maintenant. Et que donc la façon dont on va interagir, la façon dont on va apprendre, va impacter l'état d'esprit. Va nous faire fonctionner d'une façon différente, qui va aller dans un sens ou dans un autre, qui va être plus ou moins pertinent en fait pour être musicien, pour sentir bien quand on fait de la musique, pour sentir libre de s'exprimer. Voilà, ça va jouer sur plein de choses. Là, je vois plus grand-chose à dire. Alors, je vais juste vérifier si j'ai une question ou pas. Hop. Mais je pense que je le verrai s'il y avait un truc. Et apparemment, il n'y a pas de question, donc voilà. Ça veut dire que soit tout le monde s'en fout, soit que c'est super clair. Voilà. Bon, j'espère avoir été à peu près clair, voilà, avoir à peu près détaillé le truc. Maintenant, voilà, c'est une façon de faire. Elle convient pas forcément à tout le monde. Voilà, je précise quand même parce que, en tout cas, je parle avec moi parce que je connais les cours de guitare qu'avec moi. En plus, en faisant de cette façon-là, c'est sûr que par contre, ça met en face de plein de choses dans notre façon de fonctionner. Ça nous met en face de plein de trucs et faut être prêt à juste voir que, ben voilà, qu'on est tendu des fois, qu'on se crispe, qu'on n'est pas du tout dedans, que voilà, ça demande d'être capable juste de voir ça, d'accepter ça, de se remettre en question, de prendre du recul et d'avoir vraiment envie de s'exprimer, d'être voilà, et d'accepter aussi que on sait pas, que si je dis non, moi je sais, c'est bon, je sais ce que c'est d'apprendre comme ça, voilà, non en fait, il faut vraiment l'expérimenter pour se rendre compte, sinon en fait, on va même pas faire le pas d'essayer et de voir comment ça peut faire, quoi. Des fois, ça fait tellement peur de se dire qu'il n'y a plus que le son, il n'y a plus que le ressenti, on a plus ce papier là qui nous rassure. Ça peut faire flipper, ouais. Mais franchement, ça vaut le coup. Moi, je n'ai fait que simplifier ma façon de jouer. J'ai perdu la technique par rapport à quand je suis sorti de MAI. Mais j'ai gagné vraiment en autre chose. Et le plaisir de jouer, pour moi, il a rien à voir. C'est incomparable, en fait. Et faut le vivre, quoi. Voilà. Eh bien, merci en tout cas à ceux qui ont été là pendant ce webinaire, qui m'ont donné l'impression de parler à quelqu'un plutôt que d'être tout seul à parler devant personne. Merci beaucoup. Voilà, si vous avez des questions après coup, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, il n'y a pas de souci par mail ou autrement. Et puis, ben, je ne sais pas si j'en ferai une prochaine, je verrai selon les retours de celui-ci. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée à tous.